Bonjour, Martin.
Hey, bonjour à vous. Bonjour à vous.
Alors.
Bon, mon cher Martin, je veux commencer par Alex Galchenyuk. Oui. Passage qui a été assez rapide en Arizona.
Ça n'a pas été long, mais écoutez, parfois, on a des conversations anodines, puis elles finissent par avoir un certain sens. C'est un peu comme ça que ça marche dans la Ligue nationale. Il y a quelques années maintenant, quand le Canadien cherchait à se départir d'Alex Galchenyuk, même l'année avant qu'il soit échangé, on se souvient qu'un paquet de rumeurs avait eu cours dans son cas, une entre autres l'envoyant avec les Rangers de New York et tout ça. Et pendant cette période-là, nous étions allés à Pittsburgh pour faire un match entre le Canadien et les Pingouins. Et Christopher Letang, défenseur étoile des Pingouins, dans une conversation, nous disait comme ça qu'il connaissait bien Galchenyuk parce que quand Galchenyuk passait ses étés à Montréal, ils s'entraînaient ensemble sur glace et hors glace. Et Letang avait dit, Galchenyuk, ce serait un bon joueur pour les Pingouins. Il dit, nous, à Pittsburgh, on pourrait le mettre dans un environnement où ça pourrait marcher, puis jouer à l'aile avec des bons joueurs de centre pour lui, ça pourrait peut-être être une planche de salut. Et quand j'ai vu la transaction survenir là, hier, je me suis dit, ma foi, probablement que Galchenyuk a toujours été sur le tableau de chasse des Pingouins de Pittsburgh et que là, ils ont eu l'opportunité en plus de se débarrasser du contrat de Kessel. Écoutez, ça fait 2 ans que les Pingouins essaient d'échanger Kessel. L'an dernier, à la date limite des échanges, les Pingouins avaient tenté d'obtenir Max Pacioretty du Canadien, mais n'avaient pas été capables de compléter une transaction avec Kessel pour pouvoir avoir les services de Pacioretty. Alors ça fait un bail que Kessel est sur le marché. Enfin, ils ont trouvé un match avec les Coyotes.
Ouais, mais Pacioretty serait peut-être disponible. Peut-être que ce serait le temps pour les Pingouins d'aller le chercher, là.
Ben là, écoute, les pingouins n'ont peut-être pas assez sur la masse salariale. Ouais. Ils ont 5 millions avec la transaction d'hier, là. Ça leur permet de souffler un peu plus, mais plus d'aller chercher Pacioretty. Et je pense pas que Vegas est disposé à le laisser partir, là. Vegas va peut-être encore compléter une transaction, là, dans les prochains 24-48 heures, là, pour descendre un peu sous le plafond salarial, là. Mais on parle de joueurs qui sont des joueurs marginaux dans leur équipe, là, qui pourraient quitter dans les prochaines heures. L'autre échange, ben, c'est clair. Toronto vient de se prémunir contre une offre hostile à Mitch Marner. On dit que Marner aurait une valeur sur le marché d'environ 10 millions. Ben, en échangeant Zatiev hier, à ce moment-là, aux sénateurs d'Ottawa, là, à ce moment-là, les Maple Leafs ont 10 millions de marge de manœuvre là, ce matin, en date de ce matin. Est-ce qu'il y aura une autre transaction pour alléger? Peut-être, mais au moins les Leafs sont prêts. S'ils ne parviennent pas à s'entendre avec Marner dans les prochaines heures et qu'une autre équipe faisait une offre hostile, ben à ce moment-là, ils pourraient égaler l'offre. Ils auraient la marge nécessaire pour le faire.
Le boni versé à Zaitsev, est-ce que c'est la responsabilité des Leafs parce que c'est ça qui branlait dans le manche?
Oui, ben exactement. Ce serait, puis là je dis bien conditionnellement, ce serait la responsabilité des sénateurs. Alors j'ajouterais ce commentaire personnel suivant. Si c'est vraiment la responsabilité des sénateurs, attention, les sénateurs pourraient être tentés de rééchanger Zatiev aujourd'hui, de trouver une équipe qui voudrait prendre son contrat et qui aurait besoin d'un défenseur comme lui, parce que Zatiev est quand même encore un jeune défenseur qui a un potentiel intéressant. Alors, tu sais, moi je pense qu'à l'heure actuelle, la transaction n'est pas coulée dans le béton, peut-être parce que les sénateurs cherchent à trouver un match, parce qu'un chèque de 3 millions de dollars là, à déposer demain dans le compte de Zatiev, je ne sais pas si les sénateurs d'Ottawa ont les moyens de faire ça. Alors, il y a peut-être un peu de tergiversation qui reste à faire dans ce dossier-là.
Bon, Martin, on va parler là, du Canadien et de ses besoins immédiats. On parle du défenseur. Moi, j'ai l'impression que, bon, Marc Duchesne est disponible. Mm-hmm. Je fais référence à l'entre-saison précédente. On a vu ce que ça a donné l'arrivée de Ryan O'Reilly des Blues avec les Blues de Saint-Louis. O'Reilly, oui, visiblement, a trouvé sa place avec les Blues, n'avait jamais joué avec cette qualité de jeu pendant une saison complète et on a vu pendant les séries éliminatoires. Et je prétends que Duchesne n'a pas atteint son plein potentiel compte tenu de son talent. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup dans le cas de Marc Duchesne?
Ça vaut le coup, certain. ça vaut le coup certain. Puis,
je pense que ton évaluation est la même que la mienne dans le cas de Duchesne, là, mais...
Absolument. Ouais. Non, mais moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que Duchesne n'a pas 30 ans. Qu'on dise ce qu'on veut de lui, là, parce qu'il n'y a pas de joueur parfait, là, vous entendrez avec moi, là, ça n'existe pas, les joueurs parfaits. Même si la feuille de route de Duchesne a été parsemée de quelques événements, autant au Colorado qu'à Ottawa, c'est un bon joueur qui n'a pas encore 30 ans, qui gagne en maturité. Et honnêtement, je pense qu'avec la présence de Price et de Weber comme étant les leaders de l'équipe que Duchesne a fréquenté dans les matchs internationaux, tant à la Coupe du Monde qu'aux Olympiques, quand il était quand même assez jeune, pourrait placer Duchesne dans un bon environnement. Maintenant, on parle d'un engagement financier d'à peu près 9 millions de dollars. Là. On dit que c'est ce qui tourne dans le cas de Duchesne. On parlerait d'un contrat de 7 ans. Là. Moi, je vois pas Duchesne accepter quelque chose d'inférieur à 7 ans. Alors, tu sais, on est dans presque 50 millions de dollars comme engagement. Le Canadien est capable de le faire aisément. Et je pense que pour Duchesne, à l'âge où il l'a, c'est un placement intéressant pour le CH. Maintenant, Duchesne serait venu rencontrer le CH et Danny et moi savions depuis déjà quelque temps que Duchesne avait laissé couler à droite et à gauche là, chez des gens qui ont ses confidences, que le Canadien serait parmi ses équipes préférées. Il n'a pas dit qu'il serait prêt à signer avec le Canadien demain matin, mais le Canadien est sur sa courte liste. Puis de toute façon, il ne serait pas venu rencontrer le Canadien, comme l'affirment entre autres nos amis de TSN, si le Canadien n'avait pas été dans la liste courte, dans la courte liste, parce qu'il y a une question de crédibilité dans la Ligue nationale. Là. Un joueur et son agent, ça ne va pas se promener dans 4-5 villes s'il n'y a aucune chance de signer dans les villes où il est allé visiter. Mais les Prédateurs de Nashville vont être des adversaires féroces pour Marc Bergevin dans ce dossier-là.
Ben, écoute, Martin, on va suivre ça avec grand intérêt. On peut te reparler demain matin aussi. En attendant, on prépare cette émission spéciale. Ça débute à 11h demain, c'est ça?
Oui, on est là à 11h et tous nos collaborateurs, là, tous ceux que vous êtes habitués d'entendre là, à Cogeco Sport, Mario Tremblay, Danny Dubé, Benoît Brunet, on aura des nouvelles également de Daniel Brière, quelques invités là, sur lesquels on est en train de travailler la confirmation que vous allez certainement apprécier. Là. On va se donner là, 5 belles heures de hockey demain, puis on espère évidemment avoir de l'action. Si le Canadien bouge, nous serons tout prêts et vous aurez la possibilité d'entendre là, les acteurs qui auront été impliqués dans ce que le Canadien aura fait assurément. Alors, c'est un rendez-vous qu'on vous donne avec tous nos collaborateurs hockey et des invités prévus là, autour de la table à compter de 11h demain, partout sur le réseau Cogeco Média.
Merci beaucoup, Martin McGuire.